Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour, bienvenue dans le cadre d'une série d'émissions que l'on démarre aujourd'hui et qui se dérouleront les trois prochains mercredis après-midi sur Graphite. Donc ce sont trois après-midi que l'on va passer à présenter des travaux d'étudiants. Les étudiants et étudiantes vont présenter leurs travaux donc dans le cadre du cours WE01, écrire, communiquer et collaborer sur le web. Ces travaux sont le résultat de travaux d'écriture, de fiches de lecture qu'ils ont préalablement réalisés et donc qui tournent autour de thématiques du web. Aujourd'hui, on accueille Ricardo, Adrien, Arthur et Gabriel. Bonjour à tous les quatre. Le titre de votre intervention aujourd'hui, c'est « Wikipédia, un exemple pour penser la low-technicisation du web ». Donc on va démarrer dans quelques instants et je précise que vers 16h45, il y aura une deuxième intervention avec ma collègue Audrey Guélou autour du traitement de conflits par les médias numériques et les discussions sur les réseaux sociaux. Mais donc, pour aujourd'hui, Wikipédia, un exemple pour penser la low-technicisation du web. Et donc, Ricardo, c'est toi qui as la lourde tâche de démarrer. C'est parti pour l'introduction.
Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, et depuis l'invention de l'Internet dans les années 70, au plus encore depuis l'apparition du web en 1999, nous vivons une époque où nos relations sociales, notre travail et la majorité de notre quotidien reposent chaque jour un peu plus sur des technologies informatiques et ces technologies sont intrinsèquement high-tech. Selon Wikipédia, l'anglicisme high-tech sont des techniques considérées comme les plus avancées à une époque donnée. Cette définition permet aujourd'hui au département de marketing de décrire tous les nouveaux produits comme à la pointe. Les domaines qui sont communément acceptés comme relevant de la high-tech sont aujourd'hui l'aérospatial, les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication, les nanotechnologies, la robotique, etc. Un des problèmes des technologies high-tech est écologique, à cause de la consommation croissante des équipements électroniques et des ressources nécessaires pour les construire. Cela s'explique par de multiples raisons. Premièrement, selon un rapport présenté par United Nations Conference on Trade and Development en mai 2021, de plus en plus de personnes achètent des objets numériques au niveau international. Par exemple, aux États-Unis, il y a une croissance dans les ventes en ligne de 598 millions de dollars en 2019 à 791 millions en 2020. Ensuite, selon le rapport « How small devices are having a big impact » présenté par Energy Star, qui est le programme gouvernemental chargé de promouvoir les économies d'énergie aux États-Unis, les objets électroniques existants utilisent de plus en plus d'énergie. Il y a une croissance d'environ 45% dans les consommations électriques dans l'année 2005 à 2015. En réponse à cette demande, les termes opposés « low-tech » qualifient des objets, des techniques, des pratiques et des modes de vie qui intègrent la technologie selon trois grands principes proposés par Low-Tech Lab. Premièrement, utile, car une low-tech répond à des besoins essentiels à l'individu ou au collectif. Et deuxièmement, accessible, car les low-tech doivent être appropriables par une large part de la population. Et troisièmement, durable, car la low-tech invite à réfléchir et optimiser les impacts tant écologiques que sociaux, même si cela implique parfois de recourir à moins de techniques. Donc, la low-technisation contribue à l'émergence des modes de vie, de production ou de consommation plus sobres, plus respectueux et plus résilientes. Ensuite, on va écouter un extrait audio de Garance Rajambo, étudiante en génie biologique et coordinatrice du label Ingénierie Soutenable.
La technicisation, à la base, ça vient de low-tech. Les low-tech, en français, c'est les basses technologies. C'est-à-dire, en fait, apporter une solution plus simple, moins sophistiquée, qui requiert moins de complexité technologique à des problèmes qui restent toujours les mêmes. Et le fait d'ajouter le suffixe l'innovation, c'est le fait d'apporter en fait ce regard low-tech, pas de transformer toute notre ingénierie à l'UTC en low-tech, mais vraiment de s'inspirer des principes low-tech pour un peu l'infuser à travers les technologies qu'on développe à l'UTC.
L'Internet est aujourd'hui une composante essentielle du numérique, mais est aussi responsable de la majorité de ses impacts environnementaux. On vous présente les mouvements de low-technisation comme une possible solution pour réduire l'impact environnemental du numérique. Mais à quoi ressemblera alors une Internet low-technisée? Nous pourrons prendre pour cas d'étude des sites web qui existent depuis le début d'Internet afin d'étudier s'ils ont été low-tech, s'ils le sont encore ou s'ils peuvent le devenir. Nous étudierons alors Wikipédia, une encyclopédie universelle, libre et collaborative, créée en 2001, où tout le monde peut publier un article ou apporter des modifications à des articles déjà existants. Et sa faible évolution technique à contre-courant du reste du web peut évoquer des initiatives low-tech et le rejet de la complexification technologique. On peut alors se demander dans quelle mesure on peut rapprocher Wikipédia d'un projet low-tech et on va analyser cette évolution et celle de ses usages sous le principe de la low-technisation.
Merci beaucoup Ricardo pour cette introduction. Je trouve que tu as bien posé le problème en termes de notamment de consommation de ressources. Alors une première question peut-être que je peux te poser ou vous poser. Est-ce que vous auriez peut-être vous allez en reparler après, mais vous avez parlé de la consommation d'énergie. Tu as parlé également d'autres ressources. Ça consomme quoi également de produire des objets informatiques?
Bon, en fait, ça consomme beaucoup de ressources matérielles. Ça consomme de l'électricité aussi pour la produire, des consommations de matériel pour les fabricaires. En fait,
on a. Effectivement, c'est ce que tu as dit là, c'est-à-dire que les serveurs touchent à chaque fois qu'on utilise un téléphone, tous les ordinateurs que l'on utilise, etc., nécessitent des matériaux et une partie de ces matériaux, sont pas forcément faciles à trouver, sont pas en quantité limitée en tout cas.
Hein ? Tout à fait.
Est-ce que peut-être une autre petite question, je ne sais pas si vous avez, si vous voulez compléter un petit peu, mais peut-être aussi qu'on pourrait y revenir après. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que les objets consomment de plus en plus d'électricité, qu'on consomme de plus en plus d'électricité, alors que parfois on a tendance à croire que, je ne sais pas, ça pourrait s'optimiser un petit peu avec le temps, ça pourrait être plus performant, et tu nous as dit pourtant que ça consommait plus d'électricité.
Je voulais dire que il y a une croissance dans la consommation d'électricité parce que on achète de plus en plus des objets. C'est vrai que les objets consomment moins d'électricité, mais notre consommation augmente et chaque personne et chaque logement a de plus en plus des objets. Et c'est pour ça que la consommation énergétique générale et augmente, parce qu'on a de plus en plus d'objets.
Vas-y Adrien, je crois que tu veux ajouter quelque chose.
Oui, je pense qu'on peut évoquer aussi l'effet rebond, c'est-à-dire que même si on arrive à gagner en efficacité énergétique grâce aux progrès technologiques au fil des années, comme on va utiliser finalement ces économies d'énergie pour pouvoir transférer par exemple plus de données, transférer regarder des vidéos en meilleure qualité. Et au final, même si ça nous coûte moins d'énergie de lire une vidéo, comme on lit des vidéos de meilleure qualité, on va finir par consommer autant, voire plus. Et je crois que ça s'appelle l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons.
Ok, merci beaucoup à toi de ces précisions. Alors je vois qu'on a des questions dans le... qui sont posées par vos collègues, mais comme ce sont des questions un petit peu, plus générales par rapport à la problématique, je pense peut-être que l'on peut enchaîner avec la seconde intervention, l'intervention de Gabriel. Donc Gabriel, tu vas nous parler essentiellement de l'appropriabilité à travers l'exemple de Wikipédia. Tu as la main.
Oui, tout à fait. Pour être qualifié d'appropriable, une technique doit être facile d'accès et d'usage. L'utilisateur doit aussi pouvoir comprendre son fonctionnement, la manipuler et la transformer pour l'adapter à ses besoins propres. Lorsqu'on parle d'une technologie complexe, et particulièrement dans le cas du numérique, l'appropriabilité est aussi d'ordre politique. Les utilisateurs doivent avoir un droit de regard sur la façon dont cette technique est produite et régulée, et un pouvoir d'action. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi Wikipédia est-elle une technologie appropriable? Et donc, pourquoi, à la lumière de cet enjeu, on peut la rapprocher d'une initiative low-tech? Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur l'article de Dominique Cardon et de Julien Levrel, « La vigilance participative, une interprétation de la gouvernance de Wikipédia ». Mais d'abord, je souhaiterais introduire mon intervention avec l'introduction du documentaire d'Arte. Il était une fois Wikipédia, un documentaire qui date de 2020.
Pour moi, Wikipédia constitue un apport sans précédent à l'humanité. C'est la plus grande coopération internationale qui ait jamais existé. Elle rassemble les gens autour d'un même objectif, créer davantage de savoir et le partager gratuitement.
Nous faisons partie des infrastructures planétaires. Tout le monde utilise notre plateforme, tout le monde s'appuie sur Wikipédia. Nous ne sommes plus un petit projet annexe sur Internet.
Wikipédia contient aujourd'hui plus de 58 millions d'articles rédigés en 300 langues. Tout ce qu'on y lit a été écrit par un bénévole, quelque part dans le monde. Ils sont près de 250 000 à apporter leur contribution chaque mois, et des millions depuis sa création.
Le principal avantage de Wikipédia est qu'elle balaie la conception ex cathedra du savoir, l'idée que la connaissance se trouve entre les mains d'une petite élite. Comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Wikipédia est un savoir démocratisé.
Avec Wikipédia, chacun de nous est devenu une autorité et a pu publier quelque chose sur Internet sans devoir apporter la preuve de sa compétence.
Donc, comme le documentaire le précise, et comme vous le savez probablement, tout le monde peut écrire sur Wikipédia. Il suffit simplement de se rendre sur une page, d'accéder à l'onglet « Modifier » en un clic et de soumettre ses modifications. Les débutants peuvent même s'y entraîner sur la page « Bac à sable » prévue à cet effet. Alors effectivement, les techniques d'écriture sur Wikipédia sont accessibles. Mais on pourrait avoir le même constat pour la plupart des sites qui reposent sur l'écriture ouverte. En fait, Wikipédia va plus loin. Au-delà de modifier son contenu, sa distribution sous licence libre permet de l'utiliser, de l'étudier et de la diffuser, même à titre commercial. Et là où on peut vraiment la rapprocher d'une initiative low-tech, c'est dans son modèle de gouvernance qui accorde aux contributeurs un pouvoir politique sur la plateforme. Les acteurs qui produisent la ressource, ici la connaissance matérialisée dans les articles, sont également chargés de la surveiller. Entendons ici surveillance au sens d'attention, de vigilance et de souci du bien commun. En fait, tous gardent un œil sur les productions des autres. Les Wikipédiens se corrigent, se conseillent et débattent de tout ce qui doit être modifié. D'après Cardon et Levrel, c'est ce pouvoir de surveillance qui justifie le succès de Wikipédia auprès des internautes. Ceux qui rédigent les articles, et à titre bénévole, ne sont pas là simplement pour s'exprimer. Ils se sentent investis dans la création d'une œuvre commune et sont donc soucieux de la qualité des productions d'autrui. Leur vigilance, ils l'expriment grâce à la discussion procédurale instaurée par Wikipédia. Procédurale parce qu'elle maximise la résolution locale des conflits et réduit au minimum les décisions centralisées. Procédurale aussi parce que, conformément aux politiques et aux recommandations de Wikipédia, elle ne porte ni sur les contributeurs, ni sur le contenu substantiel de leur production, mais sur le respect des procédures d'écriture. Une étude de 2007 sur la coordination de Wikipédia, Type Before You Talk Coordination on Wikipédia, met en évidence le respect de ces consignes en pratique. 7,9% des posts de la page discussion incorporent directement un renvoi explicite au principe de Wikipédia. À l'appui de ces principes, les Wikipédiens relèvent en permanence des fautes de délimitation, de composition, de sourçage, de neutralité ou encore de civilité. Donc pour les fautes de délimitation, l'encyclopédie n'a pas vocation à donner une liste exhaustive de toutes les connaissances humaines, mais de sélectionner celles qui sont suffisamment significatives et qui présentent un intérêt encyclopédique. Pour la neutralité, donc, Wikipédia a sa politique d'écriture blanche, donc, qui ne doit pas présenter de style particulier et être plus ou moins uniforme sur l'ensemble des articles. Et pour la civilité, Wikipédia a son éthique du Wikilove qui veut que, les rapports entre les personnes et puis le contenu soient plutôt positifs et respectueux des personnes. Ces discussions procédurales canalisent le travail expressif en redirigeant l'effort collectif vers l'amélioration qualitative de l'existant plutôt que la production de nouveaux articles. Elles permettent également de sociabiliser les rédacteurs novices et de les familiariser au code de Wikipédia. Donc, ce qui fait que la communauté des Wikipédiens est assez forte et solidaire. Cardon et Levrel concluent l'article sur ces mots. La procéduralisation de la discussion sur Wikipédia apparaît comme la condition indispensable de ce pari incroyablement audacieux, faire une encyclopédie d'ignorants. Le documentaire d'Arte que nous avons écouté parlait d'une conception ex cathedra décentralisée du savoir, qui appartient à tous. Grâce à cette procédure indifférente à la qualité et au statut des personnes, qui se concentrent sur le respect des règles de production, tous peuvent participer et s'améliorer. Cardon et Levrel citent Jacques Rancière qui commente la méthode d'enseignement universel développée par Émile Jacotot dans Le Maître ignorant. La vigilance participative ne contribue pas à donner la clé du savoir, mais la conscience de ce que peut une intelligence quand elle se considère comme égale à tout autre et considère tout autre comme égale à la sienne. L'émancipation et la conscience de cette égalité, de cette réciprocité qui seule permet à l'intelligence de s'actualiser par la vérification. Cette philosophie à laquelle adhère Wikipédia est finalement au cœur d'Elotech. Sa politique d'appropriabilité considère en effet que la technologie ne doit pas être livrée en pâture à l'utilisateur avec un usage prescrit. Elle considère l'utilisateur comme une personne intelligente, capable d'apprendre et d'enrichir le système technique. C'est ainsi qu'est reconnu le Wikipédien, à la fois bénéficiaire, contributeur et gouverneur de Wikipédia.
Merci beaucoup, Gabriel, pour cette très claire présentation de l'appropriabilité au sein de Wikipédia. On a une question d'Adrien que je te relaie. À propos de la façon dont sont gérés les conflits, est-ce que tu as un exemple ou tu saurais nous donner une petite piste sur ce qui se passe notamment en cas de conflit? Comment est-ce qu'on a le dernier mot? Comment sont délibérées un petit peu les questions au sein de la communauté Wikipédia? Tu as quelques pistes?
Oui, alors pour la gestion des conflits, elles sont organisées et prévues par les politiques et recommandations de Wikipédia. Mais parfois, c'est vrai, les internautes n'arrivent pas à s'accorder. Alors, il y a toute une phase de médiation qui est prévue, donc avec l'intervention de médiateurs pour tempérer le conflit et essayer de faire émerger un consensus. Même dans les cas un petit peu plus virulents qu'on appelle les wikifeux, il y a une équipe, une brigade appelée les wikipompiers qui viennent tempérer le débat. Et quand le souci ne porte non pas en fait sur... en fait, est vraiment causé par des personnes, des fauteurs de troubles, il y a des dispositifs de sanctions qui sont prévus par un comité plus centralisé, le comité d'arbitrage.
Ok, donc il y a des procédures hein, de régulation décentralisée qui arrivent à se mettre en place. Et donc, selon vous, ça fait le lien avec la notion de low-tech, c'est cette idée que, en quelque sorte, tout le monde, ou en tout cas une grande quantité de personnes, de façon horizontale, peuvent s'organiser pour gérer les technologies. C'est ça qu'il y a derrière, c'est ce que vous vouliez présenter là?
Oui, elles sont non seulement du coup capables de produire du contenu, d'améliorer la plateforme, de s'organiser entre elles et même on les estime capables de tempérer leurs conflits. Et Wikipédia maximise justement la résolution locale de ces conflits via la discussion.
Ok, alors je lance une question un tout petit peu plus ouverte. Si c'est trop tôt pour y répondre, eh bien vous pouvez la laisser en suspens. Mais Thomas demande s'il existe un guide des bonnes pratiques low-tech ou une méthodologie pour accompagner les acteurs dans une démarche de low-technicisation. Alors, je peux déjà pré-répondre que si on avait en tout cas une formule magique, ça se saurait. Mais est-ce que vous avez des pistes de liens, d'endroits où on peut aller regarder un petit peu et peut-être notamment des endroits où ces notions d'appropriabilité, par exemple, seraient plus diffusées ? Alors, grand silence dans le studio. Adrien, tu as quelque chose à, tu as quelques pistes, je crois.
Essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense que déjà le ou la low-tech, c'est quelque chose qui est un peu flou. Il y a différentes conceptions, visualisations de la low-tech. Et il y a des ressources qui existent. Je pense notamment au Low-Tech Lab, qui donne là pas forcément un guide méthodologique, mais des possibilités concrètes de créer des objets low-tech. Et il y a des recherches qui sont faites sur le sujet. Mais là, je ne serais peut-être pas capable de citer les sources précises. Il faut regarder sur les... Il me semble que c'est EVA, Orange et l'Institut des Télécoms de Paris qui travaillent ensemble avec le réseau EcoSD. Donc, ils font de la recherche là-dessus et qui produisent des articles sur ce sujet. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent creuser de ce côté-là.
Ok, en effet, il y a de plus en plus aujourd'hui de projets qui, comme tu le dis, interrogent cette question plutôt que donnent des solutions, parce que la solution, évidemment, elle est pas évidente. Voire même, vous l'avez dit, Ricardo l'avait bien de début, elle est problématique, puisque de toute façon, quand on fait de l'informatique, on est toujours en contexte high-tech, donc on cherche comment faire, comme vous l'avez dit, un peu plus low-tech ou comment réintégrer des principes de la low-tech, mais dans un environnement qui reste fondamentalement high-tech. Alors peut-être pour faire le lien, un deuxième principe des low-tech que Arthur, tu souhaitais nous présenter, c'était celui de la résilience. Donc tu vas continuer d'illustrer, je crois, avec Wikipédia.
Exactement.
Eh bien, c'est à toi.
Et oui, donc je vais parler du coup de la résilience au sein des low-tech, donc qui est une des caractéristiques des low-tech, et toujours en illustrant avec le cas Wikipédia. Donc je vais commencer par définir ce qu'est la résilience, puisque c'est une notion qui n'est pas facile à définir. Et ensuite, on va voir comment un site web comme Wikipédia emploie des initiatives low-tech en termes de résilience. Nous allons tenter de définir d'abord ce qu'est la résilience. Donc voici deux définitions qui sont données par le Robert. D'abord, d'un point de vue écologique, c'est la capacité, donc, que ce soit d'un écosystème ou d'une espèce, à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Ensuite, en informatique, c'est la capacité donc, d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. Continuer à définir cette notion de résilience, on va écouter un extrait audio donc, sur la résilience dans le milieu alimentaire présenté par les greniers d'abondance. Et donc, c'est un extrait qui date du 18 mai 2020.
Donc, trouver une définition consensuelle de la résilience n'est pas simple. Dans notre association, on a choisi de définir la résilience comme la capacité d'un système à maintenir ou à retrouver ses fonctions essentielles lorsqu'il est soumis à une perturbation. La résilience alimentaire, c'est donc la capacité du système alimentaire, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne de production et de distribution d'alimentation, à garantir l'accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive malgré les perturbations. Penser en termes de résilience, c'est penser à un système dans son ensemble, de manière holistique et non pas les éléments isolés dans leur contexte. C'est aussi penser en termes de dynamique. Comment le système évolue et comment il va évoluer face au changement climatique, à la volatilité des marchés économiques ou encore des demandes sociétales. Les caractéristiques d'un système résilient alimentaire incluent notamment la diversité des éléments. Par exemple, si on cultive une seule variété de blé, un seul parasite peut mettre en péril toute la production. La redondance des maillons essentiels, par exemple, si la plupart des abattages sont réalisés dans un grand abattoir sur le territoire et que celui-ci ferme pour des raisons sanitaires, par exemple, ça met en péril toute la filière. La connectivité au sein des acteurs, notamment des producteurs et des consommateurs, permet de favoriser l'entraide et une certaine autonomie en termes de ressources énergétiques, par exemple, est importante. Et enfin, une égalité d'accès à l'alimentation. Jusqu'à présent...
On
Oui, l'extrait a été coupé, mais tu peux enchaîner, Arthur.
Donc, on apprend du coup dans cet extrait plusieurs choses sur la résilience et on va pouvoir les mettre en lien avec les low-tech. Donc, d'abord, la résilience qui définit les low-tech a pour but de garantir un fonctionnement sain et suffisant malgré les perturbations. C'est aussi penser le système dans son ensemble et pas pour des cas isolés. Il faut penser aux évolutions et à la dynamique des systèmes en pensant comment ils vont évoluer face aux différents changements. Et c'est aussi la connectivité au sein des acteurs en favorisant l'entraide. D'autres notions sont intéressantes et sont employées dans l'audio. On peut les mettre en lien avec la résilience des low-tech, mais on va moins les détailler après. Donc c'est la diversité, la redondance ou encore l'égalité. Et donc maintenant, on va passer à la résilience de Wikipédia et on va voir comment on peut penser low-tech dans un milieu high-tech comme le web. Alors, comme on a pu le dire, le principe même de l'encyclopédie collaborative témoigne de l'entraide et de la connectivité au sein des acteurs, donc qui est un des critères des low-tech. Et c'est aussi du coup un critère de résilience pour ces low-tech. La stabilité technique de Wikipédia, ensuite, va accentuer cette résilience. Donc le principe général du site web ne change pas. Depuis le début, c'est une encyclopédie collaborative à but non lucratif. Et le but n'est pas de présenter des informations inédites, mais on se repose sur des connaissances déjà établies. Et on a un fonctionnement qui est donc indémodable et assez stable pour s'adapter au fur et à mesure et au fil des années. Si le fonctionnement de Wikipédia est stable et que le principe n'a pas besoin de changer pour être utilisé, c'est notamment car son contenu est simple et efficace. Il n'y a pas beaucoup de contenu multimédia, les pages sont en noir et blanc, donc principalement avec des simples hyperliens pour naviguer entre les différentes pages du site web. Ensuite, d'un point de vue technique, le fonctionnement de Wikipédia est assuré par un logiciel libre qui s'appelle MediaWiki et qui utilise donc du PHP et du JavaScript. Donc c'est des technologies qui datent de la fin du XXe siècle et qui sont toujours très utilisées aujourd'hui. Donc ça montre bien que l'architecture même de Wikipédia est assez résiliente. Tout en restant sobre, comme cela est recherché avec les low-tech, Wikipédia parvient à être stable au fur et à mesure de son existence, ce qui témoigne de sa résilience malgré des événements qui ont pu avoir lieu et qui auraient pu compromettre son fonctionnement. Donc on va voir quels sont les événements qui auraient pu compromettre le fonctionnement de Wikipédia et voir comment l'application a pu résister à ces événements. Donc Wikipédia est en effet stable, mais la résilience est la capacité d'un système à retrouver l'équilibre après un événement exceptionnel. Donc premièrement, depuis les débuts de Wikipédia, le site web a été sujet à plusieurs vandalismes, par exemple des écrasements de pages entières, des messages d'insultes, des graffitis ou même des personnes qui s'amusent à mettre du contenu erroné sur certaines pages. Mais quand on va voir sur Wikipédia, on remarque que, enfin, on ne voit pas vraiment en fait tous ces vandalismes. Et donc c'est parce que le site web a mis en place des systèmes de sécurité, avec par exemple des bots qui vont détecter les insultes, les fautes d'orthographe, etc. Il y a d'autres niveaux de contrôle au niveau des articles. Donc les rédacteurs d'une page peuvent par exemple avoir accès aux modifications de la page qu'ils ont créées et agir en cas de vandalisme sur cette page. Ensuite, un autre événement qui aurait pu perturber le fonctionnement de Wikipédia, c'est l'avènement des smartphones. Donc Wikipédia aurait en effet, au dépit d'autres encyclopédies, aurait pu perdre en popularité au dépit d'autres encyclopédies qui auraient réussi à s'adapter à ce changement technologique majeur. Donc les smartphones sont apparus environ en 2008 et Wikipédia a réussi à prendre le tournant de ces technologies. Notamment en mettant en place différentes pages qui permettent aux utilisateurs de voir comment adapter leurs pages sur différentes plateformes. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, en France, c'est environ 2/3 des consultations de Wikipédia qui sont faites sur téléphone. Donc Wikipédia a réussi à s'adapter malgré les changements technologiques actuels. Donc de par sa sobriété, Wikipédia fait penser à un projet low-tech et sa capacité à s'adapter au fil du temps malgré les évolutions technologiques permet d'illustrer le principe de résilience comparable à la résilience qu'on recherche au sein des systèmes low-tech.
Merci Arthur de ta présentation. Ça m'inspire une. Je te relaie une question d'Axel qui me semble en lien. Axel disait vous parliez de vous inspirer des principes low-tech dans l'ingénierie de demain. Mais il posait la question dans quelle mesure cela est possible sans avoir à renverser complètement le système, je le cite. Et derrière, il dit quel serait l'équilibre à trouver. Et j'ai trouvé qu'il y avait un lien avec ce que tu as présenté parce que tu as mis en évidence. Certaines caractéristiques, on va dire, inspirées ou proches de la low-tech, comme par exemple, que tu as illustré par différentes caractéristiques de résilience. Mais à l'inverse, tu as aussi mis en évidence des choses qui tirent plutôt sur la high-tech, comme le fait de s'adapter au smartphone ou le fait de mettre en place des robots pour automatiser la gestion d'un certain nombre de vandalismes.
C'est ça. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on arrivera... probablement pas à se détacher des technologies comme ça. C'est important d'avoir quand même des initiatives qui permettent justement d'être plus low-tech. L'important, c'est de trouver justement cet équilibre en utilisant... le minimum nécessaire, au final, est juste ce qui est suffisant, sans partir dans des excès non nécessaires. Mais on arrivera forcément... l'utilisation d'éléments high-tech, comme par exemple les bots, sert justement à être plus résilient. Et effectivement, c'est un côté high-tech qui permet d'illustrer un peu des initiatives low-tech. Donc c'est un équilibre à trouver et voilà, je sais pas si...
Moi ça me fait penser à ce que Garance disait, il me semble, dans le premier extrait audio qu'on a entendu lors de la présentation de Ricardo, où elle disait que justement la low-technicisation, c'était pas mettre du low-tech partout, dans toutes les technologies, mais c'était appliquer cette démarche dans les technologies high-tech pour voir jusqu'où on peut aller sur ces principes-là qu'on a présentés de résilience, d'appropriabilité.
Ouais, c'est ça, ce que vous nous montrez, et je vais du coup relayer une autre remarque question de Jeanne, mais ce que vous montrez là, c'est que finalement, tout en restant intrinsèquement dans le contexte du high-tech, puisque c'est forcément le cas avec des smartphones, de l'internet, etc., eh bien on peut aller piocher des idées, des concepts qui sont issus de la low-technicisation pour en quelque sorte peut-être se laisser un petit peu moins embarquer. Ça prendrait beaucoup de temps de faire ça, mais si on voulait faire le parallèle entre les usages que l'on observe par exemple sur une plateforme comme Wikipédia, ceux que l'on observe sur les médias sociaux, sur YouTube, eh ben on verrait des différences assez profondes. La question remarque, encore une fois, que posait Jeanne, je vous la relaie aussi si vous voulez y réagir, mais elle demandait est-ce que les technologies low-tech sont réellement appliquées? Et est-ce qu'in fine, il y a un réel impact sur notre consommation? Ou bien est-ce que c'est juste en fait une idée un peu sympa, mais qui ne change rien à grande échelle? Alors est-ce que, selon vous, où est-ce qu'on en est un petit peu par rapport à ça?
Comme on peut le voir sur l'exemple de Wikipédia, on ne peut pas la qualifier forcément proprement d'une technologie low-tech, en tout cas elle ne revendique pas ce terme, mais on peut l'apprécier quand même à la lumière de certains enjeux. Donc les enjeux low-tech sont développés et dans plusieurs moyens alternatifs qui commencent à prendre de l'ampleur aussi, on retrouve des thématiques low-tech. Après, c'est vrai que les alternatives low-tech, qui se revendiquent comme telles au moins, du moins restent assez marginales et elles sont... développés dans, par exemple, des écolieux ou avec une certaine radicalité. Et c'est un mouvement qui chercherait à prendre de l'ampleur et qui est pour l'instant à contre-courant quand même des tendances majoritaires.
Oui, et donc qui reste assez marginal, comme le suggérait Jeanne. Alors peut-être que du coup, ça va nous faire le lien avec la dernière partie, Adrien, où tu vas nous parler de durabilité, puisque c'est peut-être ce qu'on avait aussi tous un petit peu en tête au départ en parlant de l'OTEC, c'est-à-dire vraiment la question écologique en tant que telle. Et c'est vrai que là, pour le moment, on a plutôt parlé de valeurs complémentaires dont on voit qu'elles peuvent être en lien, mais on n'a pas encore vraiment parlé durabilité, soutenabilité. Et donc, allons-y alors.
C'est ça, je vais essayer de parler un peu de durabilité, de soutenabilité. Ça va se recouper évidemment un peu avec la résilience. Mais donc, Wikipédia, qui est donc un site web, comment est-ce qu'on peut définir la soutenabilité quand on parle d'un site web ? Donc, quelque chose de durable, c'est quelque chose dont les ressources nécessaires à son fonctionnement peuvent être produites sans compromettre l'équilibre environnemental et les ressources disponibles pour les générations futures. Donc comment ça va se présenter dans le cadre d'un site web ? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on considère que les sites web ne sont pas soutenables, ou du moins pas assez durables ? Aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique, il est estimé à 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, d'après le Shift Project et GreenIT.fr. Et on peut finalement découper les émissions du numérique dans les trois secteurs, les terminaux, donc tout ce qu'on utilise, smartphone, ordinateur, téléviseur et objets connectés. Les réseaux, donc toute l'architecture d'Internet qui nous permet donc de nous connecter, connecter les terminaux entre eux. Et les serveurs, donc, qui sont pour la plupart dans les grands data centers. Et donc tout ça, ça va avoir un impact puisque ce sont des choses matérielles, des équipements. Et cet impact du numérique en France en 2020, d'après GreenIT.fr, il est donc à 84% dû aux terminaux. Et 10% et 6% respectivement pour les réseaux et les serveurs. Et on peut aussi distinguer l'utilisation des technologies informatiques et de la fabrication des équipements. Et là, on va voir que c'est la fabrication qui représente les plus gros impacts, avec 83% des gaz à effet de serre, 88% de la consommation d'eau et 100% des ressources, puisque c'est la fabrication qui consomme les principales ressources. Et donc un site web durable, si on sort ces deux chiffres-là, ce serait un site web qui ne pousse pas à l'obsolescence des terminaux, puisque ce sont les terminaux et leur fabrication qui ont un impact très néfaste sur l'environnement. Je vous propose d'écouter un podcast, un extrait du podcast Déclic Responsable, et notamment de celui du 28 avril 2021, où Sébastien Ruffer parle d'éco-conception des sites web.
Alors pour moi, il y a deux clés fondamentales à bien garder en tête, comme je l'expliquais tout à l'heure dans l'empreinte environnementale. Le principal levier, c'est la durée de vie des terminaux. Pour être très clair, un terminal, c'est un ordinateur, c'est un téléphone, c'est un objet, une montre connectée par exemple, une télévision, etc. Donc l'idée, ça va être de leur permettre à travers des sites web qu'on va dire légers, j'emploie ce mot-là pour l'instant, on le développera peut-être un peu plus tard, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que même un mobile qui a 5 ans, il puisse faire tourner l'outil de communication que je propose. Donc c'est bien d'allonger la durée de vie des équipements, et puis aussi, en parallèle, pour un peu soulager l'infrastructure réseau et les data centers notamment, c'est de réduire la quantité de ressources informatiques qui va être nécessaire pour faire fonctionner le service. Okay. C'est-à-dire que, moi je suis amené à faire des audits de sites internet par exemple, et il n'est pas rare de rencontrer des sites vitrines dont le seul but est d'informer des clients potentiels, des prospects, sur les activités d'une entreprise, et de se rendre compte que la page d'accueil est tellement perfectionné d'une certaine manière, tellement évolué, qu'on se retrouve avec un site qui n'est pas utilisable sur un iPhone d'il y a 3 ans.
Voilà, donc ici, Sébastien Ruffer nous parle d'éco-conception, et donc avec cette notion donc, d'audit, de mesurer quel est l'impact du site web pour essayer de réduire la consommation de ressources, réduire les données transférées. Et donc si on regarde maintenant le cas de Wikipédia, par rapport à la quantité de données transférées, elle ne va pas être très importante si on la compare à l'ensemble des sites web, car Wikipédia utilise très peu de vidéos, très peu d'articles proposent des vidéos, et toutes les images, même si elles sont nombreuses, sont toujours de petite taille sur les côtés donc, de l'article, et elles peuvent être agrandies avec l'action de l'utilisateur. Donc par ce biais-là, on va réduire la quantité de données, puisque ce sont les images et les vidéos qui sont plus lourdes que le texte. Et pour ce qui est de la complexité des pages web qui constituent l'encyclopédie, elle va dépendre des articles, puisque tous les articles ne font pas la même taille. Mais globalement, c'est de l'HTML, du CSS, c'est PHP, donc des technologies résilientes, comme nous l'a dit Arthur. On a aussi un usage de JavaScript, mais encore une fois, ce n'est pas avec des librairies externes. Donc tout le code provient de Wikipédia. C'est Wikipédia qui maîtrise, entre guillemets, son système et qui n'est pas dépendant. Donc ça aussi, ça va être favoriser la résilience. Et globalement, donc de la sobriété, il n'y a pas d'animation sur Wikipédia et pas de publicité. Et ça, c'est très important parce que la publicité sur le web, donc déjà, c'est souvent des vidéos et des images dynamiques. Et ça va surtout engendrer de nombreuses requêtes vers d'autres sites, des sites commerciaux qui vont récupérer toutes ces données-là et donc faire grossir toute la consommation de ressources liées aux données qui vont s'en suivre de la publicité. Et on peut aussi ajouter qu'il n'y a pas de système de captation de l'attention sur les pages de Wikipédia, contrairement à Netflix ou YouTube, qui vont déclencher une nouvelle vidéo dès la fin du visionnage de la première, alors que à la fin d'un article Wikipédia, on n'est pas tout de suite transporté vers un autre article. Donc là, on a vu un petit peu des points donc de soutenabilité, de sobriété du site web Wikipédia, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin et dépasser l'éco-conception pour aller dans la low-technicisation? Et la low-technicisation, elle vise aussi à repenser les usages, puisque c'est ça qui va nous permettre de dépasser cette première approche simplement de réduction, puisqu'on ne peut pas réduire Wikipédia, ça nous fera toujours reposer sur des data centers, toujours utiliser Internet. Donc on ne pourra pas rendre Wikipédia complètement low-tech, puisqu'il utilise l'informatique qui est high-tech. Mais on peut essayer de repenser les usages, et notamment de savoir si on a réellement besoin de 100% du contenu de Wikipédia. Est-ce qu'on en a besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an? Donc cette question-là, elle est ouverte. Moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais il me semble que moi, personnellement, j'utilise principalement déjà le Wikipédia français, ou à la rigueur des articles anglais aussi, ça m'arrive. Mais je n'en ai pas besoin tout le temps. Et puis souvent, quand je me pose une question, je peux attendre d'arriver chez moi et de consulter mon ordinateur pour savoir, par exemple, quelle est la capitale du Danemark. Et donc voilà, on peut repenser ces usages comme ça. Et on pourrait imaginer que Wikipédia serait disponible uniquement hors ligne. Donc on pourrait le consulter depuis notre clé USB sur notre ordinateur. Parce que l'ensemble des articles français, par exemple, ne pèse que 30 gigaoctets. Et seulement 9 gigaoctets sans les images. Et c'est la même chose pour les articles anglais qui sont de 18,6 gigaoctets. Donc voilà, c'est une manière de repenser les usages de Wikipédia pour aller vers plus de soutenabilité.
Merci beaucoup, Adrien. Alors il y avait un autre Adrien qui avait demandé à un moment si c'était une bonne chose d'avoir des sites que avec du HTML et du CSS, donc en quelque sorte, tu as un petit peu répondu. Alors, que HTML, CSS, un peu de JavaScript, bon, là, on rentre dans des considérations un peu spécifiques, on pourrait en discuter, mais en tout cas, comme tu l'as dit, il y a une complexification des pages web qui s'est opérée au fil du temps, et Wikipédia est plutôt un contre-exemple de ce point de vue-là, n'est-ce pas ?
Oui, voilà, tout à fait, et évidemment, je pense qu'avec un Internet, un web uniquement basé sur HTML, CSS, on perdrait peut-être beaucoup de fonctionnalités qui sont très importantes, des usages dont on a besoin pour de nombreuses raisons, mais il y a aussi beaucoup de cas de figure où on pourrait se contenter de moins, notamment comme le faisait remarquer Sébastien Ruffer dans l'extrait audio, pour des sites vitrines qui ont uniquement à présenter des informations, on peut se contenter d'HTML et de CSS.
Et Axel aussi demandait si effectivement, tu l'as souligné, le problème principal, c'est la fabrication des terminaux. Donc il demande si on peut revoir les processus, optimiser la fabrication, le recyclage, etc. Mais je crois que ce que tu as montré ici, c'est que quelque part, le terminal qui consomme le moins de ressources, c'est celui qu'on n'a pas construit. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de diminuer la renouvelabilité, le renouvellement des appareils. Et pour ça, du coup, de rester avec des technos simples. Le lien à ce moment-là, je crois, est bien apparu.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est exactement ça. Oui.
Alors, j'avais gardé sous le coude une dernière question donc, que je vous propose de traiter tous ensemble, d'Adrien, qui a demandé comment est-ce que l'UTC introduit concrètement le low-tech aujourd'hui dans la formation. Il a demandé est-ce qu'elle pourrait faire plus ou ce qu'elle pourrait faire en plus. Alors, je ne sais pas si vous avez des pistes là-dessus, j'en ai quelques-unes, mais si vous voulez commencer, allez-y. Vous avez des exemples d'initiatives de l'UTC qui ont été prises en lien avec ces thématiques ? Non, personne. Je vous prends un peu en traître à la fin.
Oh, si je me concentre sur la notion d'appropriabilité, qui est bon, pas aussi essentielle peut-être que la durabilité, mais là, on est dans le studio Graphite qui promeut la radio libre. Et tout ça, c'est très appropriabilité friendly. Donc.
OK. Ouais, super, merci pour Graphite du coup qui nous accueille. Hein. On en profite pour remercier aussi Léo qui est à la réalisation derrière moi, qui touche tous les boutons, qui corrige toutes mes petites bêtises. Arthur ?
Ouais, du coup, on a aussi de plus en plus de cours qui, pas forcément parlent de low-tech, mais parlent d'ingénierie soutenable. Donc par exemple, je pense à SR3 qui commence à introduire des notions justement de sites web plus écologiques. Je pense à SR4 qui nous fait faire une partie sur l'ingénierie, enfin sur la soutenabilité d'un réseau particulier dans nos projets. Donc on a quelques initiatives comme ça dans plusieurs cours qui sont en lien avec ça.
Il y a aussi des doctorants qui travaillent sur la technicisation, notamment dans le domaine du numérique et plusieurs API qui abordent ce sujet.
Oui, les API, c'est des cours d'intersemestre. Et effectivement, il y aura en fin janvier pas mal de cours. Je vais aller regarder vite fait le site, j'en citerai quelques-uns. Pendant qu'Adrien, tu as aussi quelque chose à nous proposer Non, pas du tout. Tu acquiesces juste, Ricardo, rien à ajouter non plus. Du coup, je n'ai pas le temps d'aller chercher en même temps. Mais donc, effectivement, il y a un comité ingénierie soutenable qui s'est créé à l'UTC pour aider les enseignants et les étudiants et étudiantes à réfléchir tous ensemble à ces questions-là et à voir comment continuer de l'introduire dans les cours. Parce que tu l'as bien dit, Arthur, tu as témoigné pour l'informatique. Mais c'est le cas également dans d'autres branches. Hein, le fait d'essayer, dans chaque cours, d'introduire des éléments. Il y a également des activités qui sont menées en début de semestre, les fresques, la BigConf, qui sont des moyens de sensibiliser assez massivement les étudiants. Et puis effectivement, donc on l'a cité, un certain nombre d'activités qui ont lieu sous forme de stages aux intersemestres. Certaines de ces activités, notamment, traitent de ces questions-là. Donc, allez, je prends quelques intitulés rapidement, mais on a ingénierie soutenable en santé, on a Happy de s'engager autour de également des, enfin, du coup, qui va aborder notamment ces questions. Il y a Enjeu Climat UTC qui est destiné à former des étudiants à animer des activités pédagogiques autour de ces questions. Innovation durable, il y a également le séminaire développement durable. Donc en tout cas, il y a pas mal d'espace autour de ça. Alors est-ce que l'UTC peut faire plus ? Bah, certainement, mais en tout cas, au moins, on a commencé. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ? Eh bien sinon, on dit au revoir alors. Merci beaucoup à vous. Moi, j'ai trouvé ça chouette. Et voilà, les autres nous le diront plus tard. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.